Interview.
2 jours.
Bonjour à tous, Émilie pour Erdiwa. Je suis allée à la rencontre de Catherine Brett, présidente du parc naturel régional du Vercors, afin de lui donner l'occasion de s'exprimer au sujet du climat tendu qui règne au sein du parc, et plus particulièrement entre le parc et le conseil régional. Nous sommes le 20 mai 2016, le parc est alors sous tutelle. Lors du dernier vote du budget prévisionnel du syndicat mixte du parc du Vercors, ce budget n'est donc pas voté et on vous demande de démissionner. Vous ne le faites pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi et qui vous demande de démissionner ?
Alors, c'est donc les conseillers régionaux de la nouvelle majorité du conseil régional, de M. Wauquiez, qui me demandent de démissionner. Voilà, dès leur élection. Ils sont 6 délégués au parc du Vercors.
Le contexte est du coup très politique. C'est quelque chose que vous ne voulez pas vraiment favoriser au sein du parc. La région change de bord politique et du coup, on vous reproche votre étiquette. Aujourd'hui, pourquoi vous ne démissionnez pas comme ils vous le demandent ?
Alors, d'une part, il faut rappeler que j'ai remis mon mandat en jeu en juin 2015, puisque je suis passée d'un mandat de conseillère générale à conseillère municipale. Et dans nos statuts, les élections de la présidente ou du président sont calquées sur les municipales, pour justement équilibrer, on va dire, maintenir une certaine stabilité de la structure parc. Donc, je suis élue jusqu'en 2020. La demande des conseillers régionaux et départementaux, je l'ai entendue et j'ai proposé 5 vice-présidents sur les 8 existants. Donc, pour compléter l'équipe du parc et pour justement tenir compte de ces changements politiques. Mais pourquoi démissionner alors que je suis élue, d'après nos statuts, jusqu'en 2020 avec l'équipe que j'avais choisie à l'époque ?
Ces statuts, ils ont été écrits justement pour éviter ce genre de problème, pour éviter qu'à chaque élection régionale, départementale, il y ait la présidence ou même les vice-présidences qui soient comme ça mis sur la sellette, justement pour respecter une volonté de ne pas trop politiser le travail du parc.
Voilà, tout à fait. Et moi, je considère vraiment, et je l'ai toujours pensé comme ça, qu'il n'y a pas d'étiquette politique au parc et que ce n'est pas un mandat politique. La preuve, c'est que dès juin 2014, j'avais proposé une équipe qui était plutôt, on va dire, qui respectait la géographie, c'est-à-dire chaque secteur était représenté, plus que les étiquettes politiques. C'était des personnes de tous bords politiques. Et ça continue et ça a toujours été le cas au parc du Vercors. C'est plutôt la difficulté, c'est de trouver des gens qui sont investis sur le territoire et qui veulent consacrer du temps à cette structure d'innovation assez complexe qui est un parc naturel.
Aujourd'hui, le contexte, il est particulier parce que le budget prévisionnel non voté, vous vous retrouvez sous tutelle. Comment ça se passe, le travail, du coup ?
Alors, bien sûr, c'est une situation à laquelle on ne voulait pas arriver. Mais c'est vraiment, et contrairement à ce qui est dit, c'est l'absence de proposition en face de nous qui nous a fait arriver à cette situation. C'est-à-dire que il n'y a pas de proposition actuellement des conseillers régionaux et départementaux avec qui j'ai beaucoup dialogué, hein, il faut quand même le rappeler, qui puissent garantir pour nous que les missions du parc seront respectées. Et ça, c'est contrairement à ce qu'on dit, je ne m'accroche pas au pouvoir. J'avoue avoir aussi beaucoup d'autres choses à faire et je ne me sens pas vraiment investie particulièrement sur moi-même toute seule sur ce parc. Il s'agit d'avoir en face de nous des interlocuteurs qui nous garantissent que les missions du parc vont être respectées et dans l'état actuel des choses, ça n'est pas le cas. Donc il y a eu ce vote négatif. La mise sous tutelle, eh bien, le préfet l'a tout de suite mise en œuvre. Nous sommes en train, aujourd'hui d'ailleurs, au parc, nous avons la visite de la Cour régionale des comptes. Nous travaillons avec eux. Le budget va être réétudié, puisque le vote négatif a entraîné la suspension d'un certain nombre de possibilités pour le fonctionnement du parc. Mais d'ici un mois, nous en saurons plus et le préfet peut, à la suite de l'avis de la Cour des comptes, mettre en exécution le budget. On espère d'ailleurs que ce sera le cas, mais ça ne solutionnera pas le problème politique. Donc il faut que dans un deuxième temps, nous arrivions et je continue dans ce sens-là à être en relation avec un certain nombre d'élus. Il faut que nous trouvions une solution pour sortir par le haut, comme je l'ai dit souvent, de ce blocage fait par un certain nombre d'élus.
Comment ça peut se solder ça? Parce qu'on peut le dire là, c'est une tribune libre, le président de la région n'est pas vraiment favorable au parc. Comment penser qu'ils vont lâcher le morceau? Comment on fait?
Alors c'est toute la difficulté, c'est que pour l'instant nous n'avons pas d'interlocuteur au niveau de la région. Nous avons quelques conseillers régionaux avec qui je discute, qui reconnaissent qu'ils découvrent un peu les missions du parc. Ils sont de bonne volonté. Nous sommes très inquiets sur l'avenir des parcs en général et les échos qu'on en a sur d'autres parcs vont dans le même sens. Vous savez peut-être que M. Wauquiez a remis en cause la création du parc naturel régional des Dombes et vient maintenant de mettre un arrêt aussi, provisoire je l'espère, sur le parc des Gorges de l'Allier. Donc ça ne nous sécurise pas sur l'avenir des parcs, même si ce sera plus difficile de s'attaquer à des parcs existants.
Comment concrètement la vie elle changerait si M. Wauquiez s'attaquait réellement aux parcs et diminuait les budgets jusqu'à rendre votre fonctionnement impossible ou en tout cas accessoire?
Ah bien, ça c'est toujours possible. Hein. Bon, nous sommes tenus, c'est un syndicat mixte, hein, nous sommes tenus à des engagements de nos partenaires. Les parcs naturels régionaux sont une compétence de la région. C'est elle qui l'a souhaité, les régions ont souhaité avoir cette compétence. Donc pour nous, c'est un petit peu, on va dire, étonnant, même surréaliste d'avoir un président de région qui nous dit qu'il trouve qu'il faut diminuer le nombre de parcs et arrêter les subventions pour les parcs. On espère que petit à petit, il va prendre en compte et comprendre l'intérêt de cet outil qui, pour moi, est un véritable outil d'aménagement du territoire. Et que c'est ce que j'essaye de dire et c'est dans ce sens que j'essaye de convaincre les nouveaux élus.
Comment vous allez faire pour... parce que là, il s'agit d'un manque d'interlocuteurs. Vous n'avez pas en face de vous M. Wauquiez. Comment on fait pour essayer de l'atteindre pour que les choses se solutionnent et qu'on n'en reste pas à une situation conflictuelle comme elle est là?
Alors... j'ai des bons contacts avec un certain nombre d'élus départementaux et régionaux, on va dire de la majorité de M. Wauquiez, avec qui j'entretiens justement cette discussion sur l'importance de maintenir cette structure. Et je l'espère, j'espère qu'ils seront convaincus petit à petit. Je pense que c'est une méconnaissance très importante de ces nouveaux élus, de tout ce que fait un parc sur un territoire. Alors, les choses évoluent. On peut dire qu'il faut qu'on arrive à positiver un peu cette situation. Les choses évoluent. Certains élus qui en étaient, on va dire, à certaines querelles un peu intestines, on va dire, entre nous, mais avec qui j'ai des bonnes relations quand même, se rapprochent de moi en disant « si le parc ne s'occupe plus d'environnement, qui va le faire ?» contre certains discours de certains conseillers régionaux qui disent qu'il faut que les parcs arrêtent de s'occuper d'environnement. Voilà, tous ces débats-là, je pense, sont mis sur la table et ça, c'est un aspect positif, c'est redéfinir ce que c'est qu'un parc, retourner, expliquer à nos élus. Et ça, c'est le travail qu'on est en train de lancer avec la révision de la charte. Donc, on va dire que les questions, maintenant, arrivent sur la table de tous côtés et c'est peut-être ce qui va permettre de sortir par le haut de cette situation.
Alors c'est peut-être voilà, le seul point positif de cette situation de blocage, c'est qu'effectivement les gens se manifestent et réfléchissent au contexte particulier et ça va vous aider à cette révision de la charte qui, voilà, moi je me demandais si ça allait pas être plus compliqué dans ce contexte-là, mais finalement ça met en route plein de débats.
Tout à fait. Alors cette révision de la charte, on l'avait déjà souhaitée. On avait déjà souhaité, même avant tous ces, on va dire, ces bouleversements, parce qu'il y a un contexte aussi, on va dire, sur la loi NOTRe, la fusion des communautés de communes. Et toutes ces questions-là étaient déjà, on va dire, en suspens, puisque les élus nous disent, mais qu'est-ce que va devenir le parc dans le cadre de la fusion des communautés de communes? Donc, on avait déjà cette anticipation à cause de la loi NOTRe et de la réforme territoriale. Là, on l'a encore plus avec la remise en cause des parcs. Eh bien, finalement, mettons-nous autour de la table. Qu'est-ce que c'est qu'un parc et qu'est-ce que ça apporte dans un territoire? Et là, je pense qu'il y a un vrai débat positif. Il faut qu'il soit le plus serein possible. Mais pour moi, qui suis une convaincue, bien sûr, je suis persuadée qu'on peut arriver à convaincre encore, quel que soit le bord politique, les élus qui voudront bien nous écouter.
Ça peut être une richesse, cette variété d'étiquettes au sein du parc. C'est avant tout, comme vous le disiez tout à l'heure, une question de territoire. On peut réussir à travailler avec des écarts, politiques et vraiment quasi philosophiques sur la façon dont on voit un parc. Ça peut se faire quand même ?
Tout à fait. J'ai apprécié les débats avec certains conseillers régionaux qui me disaient « Mais Madame Brett, Madame la Présidente, il faut que le parc soit un véritable outil d'aménagement du territoire. » Alors je leur ai dit « Mais alors qu'est-ce que pour vous un véritable outil d'aménagement du territoire ?» On me dit « Il faut parler économie. » Et je leur ai rappelé que pour nous, le développement économique est intrinsèque aux missions du parc. Et quand je leur dis qu'on consacre presque 40% de notre budget à des actions vis-à-vis du tourisme et l'agriculture, ils sont les premiers surpris. Voilà. Donc je pense que c'est ce que l'on entend sous les mots qui est à redéfinir plus que, on va dire, le fond des choses. On est d'accord avec eux ? Bien sûr qu'il faut du tourisme, bien sûr qu'il faut d'agriculture, mais il faut des pratiques agricoles qui préservent l'environnement, et c'est ce que font très bien nos agriculteurs. Il faut un tourisme qui soit plus orienté, on va dire, sur l'ensemble de l'année, sur la diversification touristique, qui tienne compte du réchauffement climatique. Voilà ce sur quoi nous travaillons.
Il me semble qu'il y a une grande méconnaissance de votre travail et que ces querelles politiques amènent des gens dans le débat qui, en fait, n'ont pas suivi l'histoire du parc et de son travail. Il faudrait peut-être leur rappeler ça. Comment on fait pour s'adresser à eux et leur faire comprendre que la priorité, elle n'est pas là où ils la pensent ?
Alors ça, c'est un énorme travail. On s'aperçoit qu'il y a une méconnaissance du parc. Là, nous sortons d'un travail de diagnostic patrimonial fait par des étudiants d'AgroParisTech, hein, l'école de Paris, l'école d'ingénieurs agronomes, qui confirme ce genre de réflexion. C'est un sujet passionnel, le parc. Les gens ont toujours une critique à faire, mais en même temps, quand on creuse un peu avec eux, ils nous disent « Ah non, mais s'il n'y avait plus de parc, ça serait catastrophique. » Mais c'est les premiers à critiquer le parc. Donc, ce travail de pédagogie est énorme à faire. Je pense qu'il y a des questions, on va dire, tout à fait, on va dire, objectives. C'est que, on l'avait vu avec Madame Pic, en mars 2014, la moitié des maires ont changé. La moitié des maires des communes ont changé. Donc, on ne sait pas si toutes les équipes municipales ont changé, mais il n'y a plus cette connaissance historique. Le parc a 45 ans. Il faut repartir des fondamentaux, réexpliquer et dire à quoi ça sert. Et chaque fois qu'on le fait, en toute convivialité, dans des réunions de secteur ou quand on va voir les maires, eh bien, on finit toujours très bons amis et ils découvrent ce qu'on fait sur leur commune ou on les aide, on va dire. Quelquefois, c'est plutôt, ils sont convaincus, mais ils n'arrivent pas à convaincre leur conseil municipal. Donc voilà, on est à leur disposition pour toujours rappeler à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il faut en faire et peut-être changer aussi certaines orientations au vu des nouvelles compétences que prennent les communautés de communes.
Là, ça va être le moment, effectivement, d'expliquer aux auditeurs pourquoi, parce que c'est un travail que vous faites avec les élus régulièrement, puisque les mairies changent et que les gens ne sont pas forcément au courant, ne sont pas forcément des gens qui viennent du coin et qui sont pleins de bonne volonté, mais à qui il manque des éléments de compréhension. Pourquoi c'est tellement important, ce parc ? Et quel service et quel projet vous menez au quotidien et sur le long terme avec les communes ? Pourquoi vous y tenez tant à ce parc ?
Bon, c'est peut-être pas dans ces termes-là. Je n'y tiens pas personnellement plus que ça. Mais par contre, pour y avoir passé 15 années en tant que déléguée au bureau, vice-présidente à la biodiversité et en charge de la réserve, et puis petit à petit, en m'intéressant à tous les autres domaines, c'est un outil, on va dire, d'aménagement du territoire. Et on sait que on fait mieux, enfin on permet, on va dire, un développement économique peut-être plus équilibré qu'ailleurs. Voilà, on n'a pas de certitude, mais on sait que, par exemple, on peut montrer que pour 1 euro mis dans le fonctionnement du parc, il y a 3 euros qui arrivent pour les habitants, les élus sur le territoire. Ça veut dire que on va chercher des moyens pour permettre aux habitants, aux élus de monter des projets et de pouvoir bien vivre sur le territoire.
Parce que c'est un territoire spécifique et que ça ne peut pas être traité comme n'importe quelle zone géographique.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des missions qui nous permettent, on va dire, d'aller chercher de l'argent au niveau européen, de participer à des programmes de recherche avec d'autres parcs, avec des universitaires. Si bien qu'on est toujours un petit peu dans l'anticipation des choses. Et on sait, par exemple, que sur la diversification touristique, on est reconnu. On vient nous voir, d'autres parcs viennent nous voir. Le parc du Verdon, le parc de l'Aubrac. Sur l'urbanisme, on travaille avec d'autres parcs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme le Livradois-Forez ou le Pila. On va dire qu'on fait partie d'un réseau. On va chercher des idées, on va voir d'autres structures et on essaye de trouver des moyens pour que nos agriculteurs, nos hébergeurs et bien sûr les habitants, quels qu'ils soient, puissent bien vivre sur leur territoire.
Dans le cas où vous ne trouveriez pas de solution politique au problème là, est-ce que vous seriez prête quand même à partir et à laisser la place si on vous garantissait que ça ne mette pas en danger le parc ?
Bien sûr. Ça, c'est une... Il faut vraiment que ce message soit bien compris. Je n'ai aucune ambition politique personnelle. Je suis en fin de carrière. J'ai décidé de me consacrer au parc parce que je pense que c'est un outil utile pour le territoire. Mais personne, on va dire, n'est indispensable. Et si j'avais, on va dire, en face de moi des propositions qui me garantissent que, on va dire, une équipe d'élus qui voit à long terme, qui connaît les missions du parc, ce profil, je quitterais sans regret ce parc.
Merci beaucoup, Catherine Brett.
Bien, merci à vous. Hein.
Je vous en prie.
Bien sûr.
Bonne fin de journée à tous.
Interview. Okay, the bird. Interview. L'interview du jour. L'interview du jour.